Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Jean-David Lévite, diplomate, ambassadeur de France. Jean-David Lévite qui est le conseiller diplomatique à l'Élysée auprès du président Nicolas Sarkozy, comme il le fut auprès du président Jacques Chirac. Au cours de sa carrière, il fut aussi, entre autres, ambassadeur à Pékin, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant de la France auprès du Conseil de sécurité, chef de la mission permanente française à l'ONU et ambassadeur à Washington de 2002 à 2007. Jean-David Lévite a été élu en décembre 2007 membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et le 9 décembre dernier, c'est le président de la République lui-même qui lui a remis son épée d'académicien. C'était la première fois dans l'histoire de l'Académie qu'une remise d'épée avait lieu au siège de la présidence de la République. C'était aussi la première fois que l'Académie était accueillie par son protecteur. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'aborder 5 thèmes au cours de cet entretien. Premier thème, qu'est-ce qui a le plus changé sur le plan international depuis 1995, année où vous êtes donc devenu le conseiller du président Jacques Chirac pour les affaires diplomatiques? Deuxième thème, quelles sont aujourd'hui les plus grandes urgences internationales et vers quel type de gouvernance va-t-on? Troisième thème, quelle est la place de la France? Quelle peut être la spécificité de sa démarche et sa marge de manœuvre sur le plan international? Quatrième thème, le travail diplomatique, la hiérarchisation des priorités et la coordination entre les divers centres de décision. Puis nous terminerons, si vous le permettez, par quelques questions plus personnelles. Chacun comprendra qu'il s'agira pour vous de poser uniquement quelques jalons essentiels, mais c'est sans doute l'exercice le plus difficile. Ceci à l'usage d'un public cultivé, certes, mais pas nécessairement averti de toutes les finesses des arcanes diplomatiques. Comme l'actualité internationale va évidemment très vite, je précise que cette émission est enregistrée le jeudi 21 janvier 2010. Ceci étant dit, tout de suite, le premier thème. Jean-David Lévite, à vos yeux, qu'est-ce qui a le plus changé de 1995 à 2010 quant à l'évolution de l'état du monde et des principaux enjeux internationaux et quant à l'évolution des rapports de force et de la gouvernance mondiale?
Vaste question. Merci de votre invitation. Je vais essayer d'être aussi clair que possible. Lorsque j'ai pris mes fonctions de conseiller diplomatique de Jacques Chirac en 1995, le monde sortait de 5 décennies d'ordre bipolaire. Toute la vie internationale était structurée autour de l'opposition entre États-Unis et URSS. Le mur de Berlin s'était effondré, l'Union soviétique avait implosé, la Russie venait de naître. Personne ne regrette l'ordre bipolaire, mais nous étions entrés dans ce que j'appellerais une décennie unipolaire. Sans l'avoir cherché, du fait de la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis étaient restés la seule superpuissance. Et on peut dire que cette décennie unipolaire a commencé avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, et a duré jusqu'à, globalement, 2001-2003. 2001, c'est-à-dire le 11 septembre, l'attaque des tours jumelles de New York que j'ai vue de mon bureau d'ambassadeur aux Nations Unies. Et puis, ce que j'ai vécu comme ambassadeur à Washington, c'est-à-dire l'attaque américaine contre Saddam Hussein, la guerre en Irak, qui a montré les limites de la puissance américaine. Limite le 11 septembre parce que l'Amérique toute puissante était attaquée par 15 terroristes décidés à mourir, armés simplement de cutters. Et puis limite aussi parce que la guerre en Irak a montré que la plus puissante armée du monde ne pouvait pas reconstruire un pays. La victoire militaire a été facile, mais après a commencé une guerre civile terrible dont l'Irak n'est pas encore tout à fait sorti. Et donc cette décennie unipolaire a vraiment marqué les années de Jacques Chirac au pouvoir. Nous sommes passés depuis 2003 à peu près, dans un autre monde qui devient progressivement multipolaire. Les États-Unis restent de loin la plus grande puissance, mais on voit la montée des autres. Ce n'est pas la baisse des États-Unis qui frappe, c'est la montée des autres. La montée des autres, c'est d'abord la Chine, naturellement. La Chine vient de devenir le premier exportateur du monde devant l'Allemagne. Cette année, elle passera devant le Japon comme deuxième économie du monde, très loin derrière les États-Unis, mais tout de même, quel parcours extraordinaire. C'est l'évolution la plus massive, la plus rapide dans l'histoire de l'humanité, depuis la pauvreté jusqu'à l'affirmation d'une grande puissance industrielle, commerçante, qui forme ses élites massivement. Et donc l'ascension de la Chine est un phénomène marquant de notre temps. Mais ce qui est très marquant aussi, c'est que la Chine n'est pas seule. L'Inde suit derrière, mais à un rythme de croissance impressionnant. Et puis il y a le Brésil. Et puis il y a la Russie qui commence à retrouver ses marques sur la scène internationale. Et puis il y a d'autres puissances qui demandent à exister, à être respectées, à jouer tout leur rôle. Et donc on voit l'affirmation d'une sorte de monde multipolaire, un peu comme on a eu à la fin du 19e siècle. On a eu un siècle 1815-1914 qui a été à l'échelle de l'Europe, fait de plusieurs pôles qui s'équilibraient, qui se contrebalançaient. On va vers cet équilibre nouveau, celui d'un monde multipolaire. Et la question qu'on doit se poser, je crois, et qui est la question fondamentale de notre temps, est celle de savoir si ce monde multipolaire à l'échelle de la planète tout entière sera harmonieux ou au contraire nous conduira à des cristallisations, des confrontations, un peu comme ce fut le cas avec le concert des nations européennes qui a débouché sur deux alliances antagonistes et la guerre de 14. Je crois que c'est ça la vraie question de notre temps. Comment bâtir un monde multipolaire harmonieux ?
Mais pour revenir donc à l'analyse de ces 15 années, vous avez fait allusion au 11 septembre, vous avez fait allusion à l'Irak. Vous n'avez pas parlé de l'Afghanistan, vous n'avez pas parlé de la crise économique et financière de 2007. Vous pensez que leur incidence sur l'évolution internationale est moins forte que les deux éléments précédents ?
Non, évidemment, la guerre en Afghanistan est une guerre juste que toute la communauté internationale a approuvée à travers des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Amérique a été attaquée. Elle a demandé, après le 11 septembre, le transfert des dirigeants d'Al-Qaïda par les talibans vers les États-Unis. Les talibans ont refusé, le monde a approuvé cette guerre et aujourd'hui, pratiquement une cinquantaine de nations ont déployé des forces sur le terrain. Imaginons ce que serait le retour des talibans et d'Al-Qaïda à Kaboul. Ce serait une catastrophe pour notre sécurité, pas seulement celle des États-Unis, mais aussi celle des pays européens. Et n'oublions pas que les premières victimes d'Al-Qaïda sont d'abord des musulmans, en Irak, mais aussi en Afghanistan, au Pakistan, ailleurs. Et donc, la guerre en Afghanistan est un phénomène important de notre temps. Je ne l'ai pas mentionné parce que, à la différence de la guerre en Irak, c'était une guerre nécessaire. Alors que la guerre en Irak a été une guerre de choix. Rien ne justifiait cette guerre, c'est la position de la France. Le fait que les armées américaines n'aient découvert aucune arme de destruction massive, alors que c'était la justification de la guerre, le confirme. Et quand on voit ce qui s'est passé après la victoire militaire, c'est-à-dire une période extraordinairement difficile pour l'Irak, on comprend que la position à l'époque de Jacques Chirac était la bonne. Quant à la crise financière, elle est un défi extraordinaire et qui a, et c'est peut-être la première réponse à votre question, montré à quel point la coopération internationale est absolument indispensable dans un monde globalisé et qui vit au rythme de l'immédiateté. Les problèmes aujourd'hui sont globaux. Les capitaux circulent sans frontières. Les terroristes circulent sans frontières. Le problème du réchauffement climatique est évidemment global. Les pandémies, que ce soit le sida ou la grippe H1N1, ne connaissent pas les frontières. Et donc nous sommes condamnés à travailler ensemble, pour régler ces problèmes globaux et nous sommes condamnés à le faire vite, vite et bien. Quand on a eu le 15 septembre 2007 la faillite de Lehman Brothers, l'écho à travers le monde, ça a été quelques heures. En quelques heures, les bourses en ont pris acte avec violence dans des chutes spectaculaires de New York à Hong Kong, de Bombay à Londres et Paris. Et il a fallu réagir immédiatement. Or, nous n'avions aucune structure organisée pour traiter ces problèmes dans l'immédiateté. Donc il a fallu inventer.
Alors justement, à propos de ces structures, est-ce que l'un des phénomènes marquants de ces années 95-2010 n'est pas la progressive ankylose des structures héritées de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU et les structures de Bretton Woods?
Vous avez tout à fait raison. Nous sommes au XXIe siècle. La structure politique du monde multipolaire, c'est le XXIe siècle. Et les institutions internationales, c'est celles que la charte de San Francisco en 1945, les accords de Bretton Woods la même année, ont mis en place. Au lendemain de la guerre, il y avait la domination des États-Unis, évidemment. Il y avait une cinquantaine d'États seulement membres des Nations Unies. Nous en avons aujourd'hui 192 et nous vivons avec les institutions de 1945. Et donc, il faut considérer qu'une priorité absolue pour la vie internationale est l'adaptation des Nations Unies, du Fonds monétaire, de la Banque mondiale aux nouvelles réalités du monde. Et on n'y arrive pas. Et c'est un des drames de notre temps. Nous n'avons pas la gouvernance efficace dont nous avons besoin pour traiter les problèmes globaux.
Alors nous allons reprendre ces éléments point par point, donc sur ces grands enjeux d'aujourd'hui, donc à la fois les urgences sur les questions à court terme et à long terme, et là ce que vous venez d'évoquer, donc la gouvernance, la place à apporter au pôle de gestion par thématique par exemple, ou par zone géographique, ou les réunions ad hoc. Qu'est-ce qui, selon vous, est la meilleure solution pour l'avenir? Alors concernant les problèmes du monde très très précis, des questions internationales immédiates ou qui ont une perspective de développement plus lointaine. Question immédiate, Haïti. On a vu le président français réagir vivement après ce qu'on pourrait considérer peut-être comme une réaction d'agacement du secrétaire d'État français à la coopération, Alain Joyandet. Et on a vu le président de la République française réagir vivement et marquer vraiment sa solidarité avec les États-Unis. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au-delà même de la réaction ponctuelle, il y a une volonté très forte de la France de désormais préserver des bases d'une entente plus que cordiale avec les États-Unis dans la gestion des problèmes du monde?
On peut avoir des sujets de désaccord avec les États-Unis. C'est tout à fait normal. Dans chaque famille, vous avez des moments où les membres de la famille ont des disputes. Ce qui est important, c'est de se rappeler à chaque instant que nous sommes des partenaires, des alliés, que nous partageons globalement la même vision du monde depuis que le président Obama a été élu. Nous nous retrouvons. Et donc, dans cette affaire de l'aide à apporter à Haïti, nous devons nous féliciter de voir les États-Unis, qui ont une très grande communauté haïtienne immigrée aux États-Unis, s'engager comme la France l'a fait. Et ce serait absurde, dommage, ridicule même, de voir les pays qui portent secours aux Haïtiens face à une tragédie sans précédent se disputer sur qui fait quoi. Nous sommes condamnés à travailler la main dans la main. Ce qui nous manque là encore, c'est un capitaine qui indique quelle est la bonne marche. Dans la tragédie, c'est les 300 disparus de la force des Nations Unies. Dans le séisme, les Haïtiens ont vécu une tragédie sans précédent. Les Nations Unies ont été confrontées à une nouvelle tragédie puisque le chef de leur mission, Eddy Annaby, est mort, ainsi que des dizaines de ses collaborateurs. Et on a encore 300 disparus des Nations Unies. Et donc, il n'y avait plus pour organiser le secours, pour prendre en main la mise en place de la gestion d'aéroports, de la gestion du port, etc., les Nations Unies. Et donc, là encore, nous sommes condamnés à inventer à la place des Nations Unies et à trouver ensemble, avec les Américains, les Canadiens, les Brésiliens qui sont très présents à nos côtés, des règles du jeu, une répartition du travail. Ça n'est pas toujours facile et puis cela se déroule dans un climat qui est extrêmement tendu parce qu'il s'agit de sauver des vies. C'est une course contre la montre, non seulement pour sauver les vies sous les décombres, mais au-delà, nourrir des malheureux qui n'ont plus rien à manger, plus rien à boire parce que l'eau est polluée sur place. Et donc tout ça se fait dans l'urgence, mais il faut que nous coopérions la main dans la main.
Ce qui veut dire que du côté français, on refuse de voir dans ce geste des États-Unis, de cette attitude des États-Unis, en prenant le leadership donc, de ces opérations de sauvetage, on refuse de voir là-dedans la volonté d'affirmer à chaque fois que ce sera possible une espèce d'hégémonie américaine sur la conduite des affaires du monde. Ça n'est pas ça qui est en cause.
Écoutez, je crois que ce serait absurde de reprocher aux Américains de faire tout le possible pour sauver des vies et massivement en Haïti. Nous devons féliciter le président Obama d'avoir réagi aussi vite que nous. Aussi vite que nous. On est arrivés ensemble. Et d'ailleurs, la géographie explique qu'on a été les premiers puisque nos premiers secouristes sont partis des départements de Martinique et de Guadeloupe. Ceux des États-Unis sont partis de Floride et la proximité géographique nous a amenés ensemble sur le terrain. Et nous travaillons bien, la main dans la main, il faut que ça continue. Ça n'est pas facile parce qu'encore une fois, quand vous avez l'urgence, vous voudriez toujours faire plus et mieux. Mais je crois que jusqu'à présent, nous avons réussi à très bien travailler ensemble. Et je ne vois aucune volonté, ni du côté français, ni du côté américain, d'imposer quelque impérium que ce soit. Haïti est un tout petit pays malheureux, dévasté, qui doit être sauvé. C'est ce que nous faisons ensemble.
Alors prenons les enjeux essentiels donc, des relations internationales dans les prochaines années pour dégager une idée sur chacun de ces points. Il y a d'abord cette question de l'après-Copenhague. Des engagements avaient été pris pour le 31 janvier. Ils ne seront pas tenus. Les États n'ont pas encore bougé. L'ONU devait faire une relance. Elle ne l'a pas faite. Quels sont les moyens que l'on peut avoir pour mettre en œuvre de façon réaliste et efficace donc ces intentions exprimées à Copenhague et qui pour l'instant sont restées lettres mortes? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Quand le président de la République est arrivé à Copenhague, il a constaté avec 130 autres chefs d'État que rien n'était prêt. Il y avait bien un texte, mais il y avait 91 crochets, c'est-à-dire 91 formules essentielles du texte qui ne faisaient l'objet d'aucun accord. Et nous avions un peu plus de 24 heures pour réussir. Et donc le président de la République est monté à la tribune pour dire « Moi, je demande qu'après le dîner organisé par la reine du Danemark, on se retrouve à une petite trentaine de chefs d'État représentant les principaux enjeux de cette négociation, les principales régions, de façon à pouvoir travailler toute la nuit et aboutir demain à un accord sur l'essentiel. Cette proposition a été comme un électrochoc et à 11h30 du soir, le travail a commencé avec 28 chefs d'État et de gouvernement.
Vous aviez c'est un là... peu aberrant quand même. Hein
bah, c'est assez inouï de penser que depuis 2 ans, la négociation était engagée à 192, mais précisément la lourdeur du processus onusien n'a pas permis de déboucher. Donc on a inventé, sur proposition de la France, un groupe des 28 qui a bien travaillé. C'est ce qu'on appelle l'accord de Copenhague. Alors il est insuffisant, mais c'est une bonne base pour continuer à travailler.
Donc vous souhaitez que ce soit ce groupe-là qui prenne en main maintenant la mise en œuvre des premières...
Alors c'est là qu'on a la difficulté, parce que nous vivons la démocratie mondiale, 192 pays réclament le droit à l'expression.
Et toujours la même question, quoi.
Et donc, il faudra de toute façon que les 192 continuent à se réunir. Mais l'expérience de ces 2 années a prouvé qu'à 192, on n'y arrive pratiquement pas. Et donc, ce que nous suggérons, c'est qu'en parallèle de cette négociation à 192, le groupe des 28 qui a si bien travaillé continue à se réunir une fois par mois pour trouver les chemins de compromis raisonnables sur tous les grands sujets qui restent sur la table, de façon à ce que, lorsque le prochain sommet se tiendra au Mexique en décembre, nous puissions avoir cette fois-ci, non pas un texte bourré de crochets, mais un accord quasiment finalisé.
Alors, deuxième grande question à l'ordre du jour international, l'Afghanistan. Très prochainement va se tenir à Londres une conférence très importante. De façon très concrète, vous attendez vraiment que des décisions soient prises en termes de sécurité, en termes de gouvernance, en termes de relations avec le Pakistan de cette conférence, ou est-ce qu'il va encore falloir attendre ?
Alors c'est encore une initiative du président de la République, cette fois-ci avec Gordon Brown et Angela Merkel, parce qu'il nous a semblé qu'après la fin de l'interminable processus électoral qui a confirmé Hamid Karzai à la tête de l'Afghanistan, il fallait que nous nous retrouvions avec lui, avec son gouvernement, pour tracer une sorte de feuille de route pour l'année qui vient. Tirons les leçons de ce qui n'a pas marché en Afghanistan. Il faut que le gouvernement afghan gouverne, lutte contre la corruption, lutte contre la drogue, montre qu'il y a un pilote dans l'avion, si je puis dire, qu'on accélère la formation de la police afghane, de l'armée afghane, de l'État afghan, de façon à ce que nous puissions le plus vite possible transmettre les pouvoirs à l'État afghan, à son armée, à sa police. Voilà notre objectif. Et il faudra que cela marche. Et en attendant, nous sommes engagés avec nos alliés pour veiller à ce que la résurgence des talibans soit tenue en échec. Il faut donner toute sa chance à la feuille de route que nous allons adopter fin janvier à Londres.
Mais à supposer que cette démarche aboutisse, est-ce que ça ne va pas, selon la théorie des dominos, déplacer le problème ailleurs ? Est-ce que ça ne va pas amener les talibans à vouloir durcir la situation au Pakistan qui deviendrait leur point de repli ?
Nous ne réussirons pas en Afghanistan si nous n'avons pas le soutien, l'aide du Pakistan. Parce que aussi longtemps que les talibans pourront franchir la frontière, lancer une attaque et trouver refuge de l'autre côté au Pakistan, ce sera un combat sans fin. La bonne nouvelle, c'est que les dirigeants du Pakistan l'ont compris et ont décidé de s'attaquer aux talibans. Et d'abord à ceux qui luttent au sein du Pakistan contre le pouvoir en place. Le Pakistan a compris qu'il était lui-même menacé par les talibans. Et donc l'armée est engagée dans des combats très durs. Et donc on a maintenant une sorte de tenaille qui prend les talibans du côté pakistanais par l'armée pakistanaise, du côté afghan par la coalition épaulée de plus en plus par l'armée afghane. Donc il y a un chemin. Et c'est ce chemin que nous allons consacrer tous ensemble à Londres et mettre en œuvre tout au long de l'année 2010.
Donc ce sera une conférence clé. Autre sujet concernant cette fois donc l'Irak, je vais vous demander de faire un peu de politique fiction. En quoi, selon vous, le monde de 2010 aurait été différent de ce qu'il est si les Américains ne s'étaient pas engagés dans cette guerre ?
Je crois qu'on aurait pu, puisque vous m'amenez sur le thème de la politique fiction, régler le problème de Saddam Hussein, qui était un horrible dictateur, sans guerre, par la pression. Parce que la menace de la guerre était efficace. Et l'intrusion des missions d'inspection des Nations Unies était considérée comme insupportable par Saddam Hussein. Et donc, en menaçant de faire la guerre, mais sans aller jusqu'au bout, en amenant les États arabes, etc., toute la région à s'engager, peut-être, sans doute, aurait-on pu obtenir le départ de Saddam Hussein et des principaux dirigeants vers un pays d'accueil et les remplacer par un régime qui aurait été évidemment très différent. Maintenant, revenons aux réalités. Aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que la démocratie prenne racine. On va avoir des élections dans les mois qui viennent qui vont être décisives. Il faut que les coalitions qui vont être au pouvoir reflètent bien l'équilibre démographique, religieux, chiite, sunnite, kurde, de façon à ce que la nation irakienne, qui a été soumise à des tensions extrêmes, se refasse, alors que ce qui a pu menacer à un moment, c'est l'éclatement du pays entre une zone chiite, une zone sunnite, une zone kurde. Et pour l'équilibre du Proche-Orient, ça aurait été une catastrophe.
Mais vous pensez que ce risque de division-là, aujourd'hui, est dépassé ?
Oui, parce que les Irakiens sont d'abord fiers d'être des Irakiens. C'est une très vieille nation, héritière de Babylone, qui a toujours considéré qu'elle était le cœur ou un cœur battant de la nation arabe. la frontière entre la nation perse et le monde arabe, c'est précisément cette frontière entre l'Irak et l'Iran, qui a d'ailleurs été l'objet d'une guerre absolument meurtrière. Aujourd'hui, l'Irak doit retrouver toute sa place sur l'échiquier du Moyen-Orient. Le monde a besoin d'un Irak qui tienne debout. Et les Irakiens sont fiers de leur nation, de leur histoire. Et je pense qu'ils sont capables de dépasser leurs différences religieuses ou ethniques pour se rassembler.
Alors, question maintenant, évidemment, capitale, celle du Proche-Orient. Est-ce que vous considérez que l'échec de l'ultimatum lancé par le président Obama au Premier ministre, M. Netanyahou, sur les implantations dans les territoires occupés, constitue un signe du fait que la colonisation réalisée par Israël en Cisjordanie rend quasiment impossible l'établissement dans les prochaines années d'un État palestinien?
Le monde entier, à commencer par Palestiniens et Israéliens, est maintenant d'accord pour dire qu'il n'y aura de solution qu'à travers la création d'un État palestinien et la coexistence côte à côte, en paix, en démocratie, d'Israël et de la Palestine. Donc l'objectif est bien identifié. Le chemin pour y arriver est bien identifié. Les négociations du temps de Bill Clinton avaient pratiquement abouti à un accord. On sait en effet que le territoire, par exemple, de l'État palestinien sera basé sur les frontières telles qu'elles existaient en 1967, avec des échanges de territoires pour intégrer le fait qu'après 1967, d'importantes villes israéliennes se sont établies de l'autre côté de la frontière. Je ne vais pas rentrer dans les différents paramètres et les détails, mais la question de la colonisation est fondamentale. Si la colonisation continue, que restera-t-il du territoire de l'État palestinien? Donc il faut que la colonisation s'arrête. À partir de là, il y a deux regards. Les Israéliens disent, négocions sur les différents problèmes à régler, à commencer par la frontière, et à ce moment-là, nous saurons où passe la frontière, et non seulement nous arrêterons la colonisation, mais nous aurons à démanteler les colonies qui seront du côté palestinien de la frontière. Les Palestiniens, eux, disent, commencez donc par arrêter la colonisation, puisqu'on va négocier le territoire de l'État palestinien. Ça vous évitera d'avoir à démolir ce que vous êtes en train de construire. C'est une question très difficile. Le fait est que le Premier ministre Netanyahou a accepté et annoncé un gel partiel, mais qui n'a pas de précédent, ni dans son étendue, ni dans sa durée. Et il dit, je ne peux pas faire plus, sinon je perds le pouvoir, ma coalition explose. De l'autre côté, les Palestiniens disent, mais Barack Obama avait demandé un gel total, il a bien raison, nous le soutenons, et donc tant qu'il n'y a pas un gel total, nous ne reprendrons pas la négociation.
Mais qui peut débloquer la situation?
Eh bien, nous sommes tous en train d'y travailler, il faut trouver un chemin. Je pense que c'est possible, je pense que c'est même indispensable et urgent. Et urgent parce que chaque jour, chaque semaine qui passe, renforce les extrémistes, ceux qui ne veulent pas de la paix, et donc arrêtons de tourner autour des conditions de la reprise de la négociation, aidons Abou Mazen, le président de l'autorité palestinienne, à obtenir les quelques gestes qui montreront la bonne volonté israélienne, et tous ensemble, allons de l'avant en ayant une conviction, c'est que nous ne ferons pas la paix à la place des Israéliens et des Palestiniens, c'est à eux de la négocier, à la communauté internationale, les États-Unis, la France notamment, d'apporter tout leur concours.
Mais vous pensez que dans les 5-6 prochains mois, il peut se passer quelque chose d'important ou est-ce qu'il va falloir entendre encore?
Nous sommes convaincus, et quand je dis nous, c'est les Européens, les Américains, qu'il y a urgence à relancer la négociation. Et donc nous souhaitons non pas attendre 6 mois ou 3 mois, nous souhaitons que la négociation reprenne dans les semaines qui viennent.
Les semaines qui viennent. Alors, vous avez évoqué donc ce problème de la gouvernance mondiale. Est-ce qu'on peut dire que les premiers pas consisteraient à donner plus de place à une formule de type G20, pour simplifier? Est-ce qu'il faudrait s'inspirer de ce type de formule extrêmement souple?
Alors, c'est un sujet difficile. La France soutient résolument les Nations Unies et l'ensemble des organisations internationales. Pourquoi ? Parce que nous considérons que toute démocratie doit soutenir la démocratie mondiale, mais à condition qu'elle soit efficace. Le problème, c'est comment rendre la démocratie mondiale efficace. Le Conseil de sécurité, lui, restera toujours un organe limité dans sa composition. Il compte aujourd'hui 15 membres, dont 5 permanents. La France est l'un des 5. Nous demandons qu'on élargisse le Conseil de sécurité pour y intégrer les pays émergents qui n'y sont pas encore. Je pense à l'Inde, je pense au Brésil, je pense à deux pays qui ont perdu la guerre, mais qui aujourd'hui sont importants sur la scène internationale, comme le Japon, comme l'Allemagne. Et puis, il faut qu'il y ait un pays pour représenter l'Afrique. On ne peut pas avoir un continent complètement absent du Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Donc, cette réforme est urgente et pourtant, elle est en panne. Tout le monde reconnaît sa pertinence, mais nous n'avons pas la majorité des 2/3 à l'Assemblée générale pour la voter. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de sursaut, et nous y appelons. Et en attendant, en effet, il faut qu'on invente des forums. On a commencé par le G8, qui a été une invention française. C'est Valéry Giscard d'Estaing, que j'ai eu l'honneur de servir pendant 6 ans, qui a organisé en novembre 1977 le premier sommet du G7 à l'époque, qui est devenu le G8. Donc, nous avons continué sur la même lancée. Et lors de son élection, le président Nicolas Sarkozy a estimé que le G8 ne représentait plus le monde tel qu'il se dessinait. Et lorsque la crise financière a surgi, une semaine après la chute de Lehman Brothers, en tant que président de l'Union européenne du haut de la tribune des Nations Unies, c'est lui qui a proposé que se tienne le premier sommet du G20. Les Américains n'en voulaient pas. Le président a été à Camp David pour convaincre avec succès le président Bush. Et ça a été le sommet de Washington du G20, suivi par celui de Londres, suivi par celui de Pittsburgh. Et c'est fondamental parce qu'il fallait non seulement qu'on puisse se réunir rapidement, et là on s'est réunis 5 semaines après la proposition du président de la République, mais qu'on puisse être efficace ensemble. Parce que sinon, ça aurait été le sauve-qui-peut qu'on a connu dans les années 30, où chacun adoptait ses solutions nationales, et l'addition des solutions nationales a débouché sur une crise catastrophique. Cette fois-ci, grâce au sommet du G20, nous avons pu réagir en nous coordonnant parfaitement. Et mieux encore, nous avons décidé que nous devions ensemble corriger les tares du système capitaliste financier telles qu'elles étaient apparues dans les excès de la finance mondiale.
Et sur ce plan-là, celui de Londres a marqué le premier pas, parce que c'est la première fois que la mondialisation n'était pas connotée avec l'ultralibéralisation galopante.
Exactement.
Il y a eu une marque d'arrêt à Londres.
Exactement. Et là encore, la France a montré la voie, parce que c'est vrai que depuis très longtemps, la France réclame la régulation du capitalisme financier. Mais pour une fois, nous n'étions plus seuls. Nous avons été rejoints par Gordon Brown, Angela Merkel, Barack Obama. Et donc, on a réussi à imposer des règles du jeu. On a réussi pour la première fois à Londres à prendre des mesures contre les paradis fiscaux. On a réussi à Pittsburgh à prendre des mesures contre les bonus excessifs, scandaleux. Et ça n'est pas fini. Et puis, pendant qu'on y était, on a décidé de réformer le Fonds monétaire, la Banque mondiale, et c'est en cours. Donc vous voyez que les choses évoluent dans le bon sens, sauf pour le moment, pour la réforme des Nations Unies.
Du Conseil de sécurité. Troisième grand thème de cet entretien, la place de la France dans les relations internationales. Alors évidemment, on pourrait passer une année. Quel est aujourd'hui le poids réel de la France? En quoi peut-elle et a-t-elle une démarche spécifique? Quels sont les principaux éléments d'évolution de notre politique étrangère, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy? Et quelle est aujourd'hui notre marge de manœuvre vis-à-vis de l'Union européenne, des États-Unis et de l'OTAN? Sur toutes ces questions-là, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire en une dizaine de minutes?
D'abord, la France reste un très grand pays. Ça ne nous était pas donné. Quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, nous étions exsangues. Et il a fallu que le général de Gaulle se batte comme un lion pour obtenir un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. La France a reconstitué toutes ses forces. Je pense qu'elle a été droite-gauche, très bien dirigée. et qu'elle reste dans la course des très grandes puissances.
Mais sixième sur le plan du PIB.
On est la cinquième économie du monde. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Parce que, bien sûr, la Chine est devenue la deuxième, mais ils sont 1,3 milliard. Nous sommes 65 millions.
Oui, 1% de la population du monde.
Et donc, voilà. Et donc, qu'on soit la cinquième économie, c'est remarquable. Plus remarquable encore, nous sommes un pays d'une extraordinaire créativité. Nous sommes une nation de très grands ingénieurs, reconnus comme tels. Ariane, c'est la France, le TGV, c'est la France, etc. Alors, je ne voudrais pas pousser le cocorico trop loin. Bien sûr, nous avons aussi nos faiblesses. Mais nous ne devons pas tomber dans le pessimisme à propos de nous-mêmes. Deuxièmement, nous sommes une nation capable de proposer un chemin au monde. Alors là aussi, je le dis sans arrogance, mais le fait est que chaque président, tour à tour, a apporté ses propositions et qu'en général, ces propositions ont été acceptées parce que les idées étaient bonnes, elles étaient bien présentées et elles ont entraîné.
Et sur ce plan-là, Nicolas Sarkozy, à votre point de vue, a apporté des choses tout à fait nouvelles. Parce qu'on pense évidemment au rapprochement avec les États-Unis, le rapprochement avec Israël, le retour dans les structures militaires intégrées de l'OTAN. Mais bon, au-delà de ça, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a apporté d'essentiel à votre
avis ? Je reprends vos points parce qu'ils méritent commentaire. La France est un acteur majeur sur la scène du Proche-Orient. Depuis le général de Gaulle, on parlait de la politique arabe de la France. Naturellement, nous gardons les meilleures relations avec tous les pays arabes. Mais le président Sarkozy a estimé que si nous voulions vraiment jouer un rôle, et un rôle reconnu comme équitable, nous devions aussi, en même temps, avoir les meilleures relations avec Israël. C'est fait.
Donc en même temps, rapprochement avec Israël et rapprochement avec la Syrie.
Voilà.
En même temps.
Voilà. Et c'est important. Si vous voulez jouer un rôle, il faut que vous puissiez parler à tout le monde. Comment peut-on prétendre aider le Liban si on ne parle pas à la Syrie? Comment peut-on faire la paix au Proche-Orient si on n'a pas de bon rapport avec Israël et les Palestiniens? Et donc je crois que ça, c'est un acquis fondamental de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy. Vous parliez du retour de la France dans la structure intégrée de l'Alliance Atlantique. Jacques Chirac s'y était essayé en 1995.
Ça, on l'a oublié. Hein.
Mais on l'a oublié, mais... Comme il m'était revenu de négocier, pourquoi avait-il voulu faire cette négociation? Parce que, précisément, le monde avait changé. L'OTAN a été, pendant plusieurs décennies, l'instrument de la solidarité occidentale face à l'Union soviétique, au bloc soviétique.
Autrement dit, c'était la guerre froide, quoi.
C'était la guerre froide, c'était le monde bipolaire. Et à juste titre, le général de Gaulle avait dit, nous, on veut un peu plus d'espace pour déployer notre politique étrangère. Après la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, quel devait être le rôle de l'OTAN? Le rôle de l'OTAN devenait de contribuer à la paix. À notre demande, à nous, France, les bombardiers de l'Alliance Atlantique sont venus nous aider en Bosnie, pour terminer la guerre en Bosnie en 1995, puis au Kosovo, pour conduire et terminer la guerre au Kosovo en 1997. Et donc cette nouvelle OTAN, qui a un nouveau rôle sur la scène internationale, c'est notre OTAN. Les seules fois où l'OTAN est intervenue, c'est en Bosnie, à notre demande, à la demande de la France, sur le sol européen. Au Kosovo, à la demande de la France à nouveau, sur le sol européen. Et puis après l'attaque des tours jumelles à New York en 2001, c'est tous ensemble que nous avons décidé, sous mandat des Nations Unies, d'envoyer les troupes de l'OTAN avec d'autres en Afghanistan.
Autrement dit, c'est le seul moyen de ne pas être un supplétif, c'est de rentrer
voilà.
Dans... C'est ça, c'est ça l'idée?
Vous avez raison. Le paradoxe de la situation, c'est que nous envoyons des troupes, et en nombre, nous sommes généralement le deuxième, troisième, quatrième fournisseur de troupes pour les opérations de l'OTAN. Mais du fait de notre demande, nous refusions de participer au commandement de ces forces. Ce qui était absurde et paradoxal. Et donc, d'abord Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy ont souhaité le retour de la France dans l'OTAN. Nicolas Sarkozy l'a réussi Et depuis, nous avons non seulement pris toute notre place, mais il y a deux commandements stratégiques dans la structure de l'OTAN. L'un est américain, l'autre est français. Et c'est la France, ce commandant français, qui, pour toute l'OTAN, est en charge de la transformation de l'Alliance Atlantique pour en faire l'outil moderne du XXIe siècle dont nous avons besoin. L'OTAN, c'est encore la bataille contre l'Union soviétique qui se prépare. Il faut maintenant adapter cette alliance qui est la nôtre, où les Européens représentent la moitié des effectifs, des efforts, à la réalité du XXIe siècle.
Mais dans cette question, les anciens pays de l'Est, comme on dit, ont joué un rôle important quand même. Dans la prise de décision de Nicolas Sarkozy, il a tenu compte de ça.
Bien sûr, mais là aussi, c'est le paradoxe de la situation. C'est que les pays qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, maintenant, ils sont chez nous. Ils sont chez nous dans l'OTAN, ils sont chez nous dans l'Union européenne. Le plus extraordinaire symbole, c'est les trois États baltes qui étaient intégrés dans l'Union soviétique, qui non seulement sont sortis du bloc soviétique, mais ils sont sortis de la Russie et ils nous ont rejoints dans l'Alliance Atlantique et dans l'Union européenne. Et donc, on était les seuls, en réalité, par notre choix, à ne pas vouloir participer au commandement des forces que nous déployions. Maintenant, nous occupons toute notre place pour commander les troupes de l'OTAN, toutes les troupes de l'OTAN, et aussi... C'est un Français qui est en charge de cette réforme nécessaire de l'Alliance.
Alors si je vous comprends bien, la grande modification de démarche avec Nicolas Sarkozy, c'est de faire en sorte que notre pouvoir soit plus que de dire non.
C'est une réponse partielle.
Je simplifie.
Parce que les précédents présidents, tous, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, avaient le pouvoir de dire non, et nous le gardons tout entier, et ils avaient aussi le pouvoir de dire oui. Et je voudrais ici souligner la dimension européenne, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et c'est pourtant le cœur de notre politique étrangère. Je crois qu'il est fondamental de bien mesurer l'extraordinaire transformation de notre environnement. Nous vivons aujourd'hui en Europe la plus longue période de paix depuis l'Empire romain.
Oui, mais est-ce que ça n'est pas vécu négativement par les gens, je veux dire par défaut, quoi ?
Parce que l'Europe
n'existe que par l'absence de guerre.
Parce que les gens regardent devant et pas derrière. Regardez la construction européenne dans le rétroviseur de l'histoire et vous verrez que quand nous étions enfants l'un et l'autre, les Allemands, on les appelait les Boches. C'était notre ennemi héréditaire. Aujourd'hui, tous les sondages le confirment. Le meilleur ami des Français, c'est l'Allemand. Le meilleur ami des Allemands, ce sont les Français.
Et le symbole merveilleux du sommet de Strasbourg-Kehl avec le pont, enfin là.
Avec le pont, c'est la chancelière qui vient rendre hommage aux morts de la Première Guerre mondiale le 11 novembre. Mais cette période de la réconciliation, nous l'avons dépassée depuis longtemps. En réalité, ce que nous faisons ensemble, Français et Allemands, avec nos partenaires européens, c'est bâtir un avenir commun. Le passé, nous avons su le dépasser. Nous sommes engagés maintenant dans une aventure qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, qui consiste à rapprocher non pas à travers des guerres, mais à travers la volonté librement exprimée des peuples, une volonté commune, celle de bâtir l'Union européenne. Alors, elle a tous les défauts, l'Union européenne. Mais n'empêche que si on a une chance d'exister au XXIe siècle, ce n'est pas séparément. La France toute seule n'aurait pas la dimension nécessaire au moment où les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie forment le nouveau concert des nations. C'est à travers l'Union européenne qu'on peut avoir cette dimension. Nous l'avons déjà à travers l'euro. L'euro est devenu, à l'égal du dollar, une des deux grandes monnaies du monde. Ça n'est pas rien.
On l'a vu dans la crise.
Et on l'a vu dans la crise. Nous avons passé la crise sans un fléchissement de l'euro. On regrette même que l'euro soit trop fort. Donc, c'est un acquis fondamental qui nous protège des à-coups de la crise, qui nous protège des dévaluations compétitives, etc. Et puis, nous avons réussi, sur le plan économique, commercial, à être beaucoup plus forts ensemble. Donc, il nous reste à émerger comme un acteur politique et militaire global. C'est possible, nous sommes 500 millions d'Européens.
Oui, mais est-ce que là encore, il n'y a pas un problème de gouvernance avec maintenant cette hydre à trois têtes là?
Alors, nous avons réglé le problème de la gouvernance avec le traité de Lisbonne. C'est un grand progrès.
Vous pensez que c'est réglé avec, là, depuis le 1er janvier, il y a la présidence tournante donc, assurée pendant 6 mois par le Premier ministre espagnol, M. Zapatero. Il y a le tout nouveau président permanent du Conseil européen, M. Van Rompuy. Et puis, il y a M. Barroso. Alors, avec ces trois-là, il faut avoir toute votre finesse diplomatique pour pouvoir les faire travailler ensemble, quand même.
Je ne crois pas. Je pense
que... Vous pensez que c'est gérable, ça ?
Je pense que le traité de Lisbonne, que la France a voulu, là encore, une initiative française, celle... de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing a porté au moment de la Convention, et puis les Français ont dit non, on a repris l'affaire, Nicolas Sarkozy a proposé de reprendre la même matière, mais dans une forme plus simple, on a aujourd'hui le traité de Lisbonne. C'est un grand progrès, pourquoi ? Parce que, en effet, nous avons le président de la Commission qui garde son rôle, ses prérogatives, et puis nous avons pour le Conseil européen, qui est une institution, là encore, créée par la France, Valéry Giscard d'Estaing, un président stable. C'est-à-dire, c'est la fin de la présidence tournante tous les 6 mois. C'était devenu absolument indispensable. Maintenant, pour 5 ans, on a un homme, Herman Van Rompuy, ancien Premier ministre de Belgique, qui va présider nos travaux, donner de la continuité, et qui va conduire les délégations lors des grands sommets avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Inde, etc. C'est très important. Auparavant, tous les 6 mois, c'était une tête nouvelle qui arrivait à Washington ou à Pékin. Maintenant, pour 5 ans, on a Herman Van Rompuy. De la même façon, nous avons Catherine Ashton, qui dirige la diplomatie européenne en rassemblant les effectifs qui étaient dispersés entre le Conseil et la Commission. Donc on a rationalisé les institutions, et la présidence tournante n'existe plus dans le domaine de la politique étrangère. Là, on a la permanence, on a la continuité. C'est fondamental pour la visibilité. Il nous reste à avoir la volonté. Avons-nous, nous, les 27 pays de l'Union, la volonté de devenir un acteur global sur la scène internationale ? La France a cette volonté, l'Allemagne a cette volonté, le Royaume-Uni a cette volonté. Est-ce que les autres pays sont prêts à nous suivre ? On a mis en place, par exemple, l'opération Atalante. C'est la première fois que le monde met en place une force navale pour lutter contre la piraterie. C'est très important parce que les pirates somaliens s'emparaient des navires. Nous avons été obligés d'envoyer une force française à 3 reprises sauver des marins. Maintenant, c'est une force européenne. Voilà un exemple parmi d'autres de ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire beaucoup plus, beaucoup mieux, et la France a des propositions.
On les attendra avec beaucoup d'intérêt, car quand même beaucoup de pro-européens se demandent pourquoi nous prenons tant de temps à nous occuper de choses qui relèvent de la technocratie la plus élémentaire, et je ne vais pas multiplier les exemples démagogiques, alors que le grand projet, on ne le perçoit pas. Quel est le grand projet de l'Europe aujourd'hui ? Vous vous souvenez de la formule de Kissinger, l'Europe, quel est le numéro de téléphone ? Bon, où est le numéro de téléphone du grand projet ?
C'est, sur la politique étrangère, au plus haut niveau, celui de Herman Van Rompuy.
C'est lui qui doit s'occuper
c'est
de ça.
C'est lui, le président stable du Conseil européen. Il a une responsabilité donnée par le traité de Lisbonne sur la politique étrangère. Bien sûr, il faudra du temps pour progresser, mais ne sous-estimons pas tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Et c'est en effet dans le domaine de la politique étrangère qu'il faut maintenant faire un vrai effort, non pas de cohérence, parce qu'on pense à peu près tous la même chose, mais d'organisation pour la présentation. Il faut qu'on arrive, non pas à dire à 27 la même chose, mais qu'on ait un porte-parole qui affirme mieux l'identité de l'Union européenne sur la scène internationale. C'est la tâche qui est devant nous, c'est ce que nous allons faire. Et puis nous avons un grand travail dans le domaine économique qui est la réponse à une question simple. Comment est-ce que l'Europe peut sortir plus forte, mieux organisée de la crise dans laquelle nous sommes encore ? Et nous avons un Conseil européen le 11 février. C'est précisément la question que Herman Van Rompuy a mis à l'ordre du jour.
Il ne nous reste que 7 à 8 minutes. Nous allons laisser de côté la question sur le travail diplomatique. J'aimerais conclure plutôt par des perspectives plus personnelles dans la perception du monde. Avec l'expérience que vous avez eue, je rappelle quand même que vous avez été le principal conseiller de Jacques Chirac, vous êtes le principal conseiller de Nicolas Sarkozy, que vous avez été ambassadeur à Pékin, ambassadeur à Washington, et pas à n'importe quel moment. Les moments les plus forts de votre carrière, je sais que vous détestez parler de vous, mais S'il y avait un ou deux moments à dégager de votre carrière.
Je vais peut-être vous surprendre, c'est la paix au Cambodge. J'étais directeur d'Asie après la fin du génocide, mais le pays était exsangue sous la botte des Khmer Rouges, sous l'occupation du Vietnam, plus d'un million de morts. Un peuple si proche de la France, nous avons été pendant des décennies puissance coloniale au Cambodge. Et donc, nous nous sommes tous mobilisés pour prendre une initiative. Et j'ai eu la chance de porter cette initiative jusqu'au bout. Je n'étais pas le premier, mon prédécesseur comme directeur d'Asie du Quai d'Orsay, Claude Martin, a commencé la négociation. J'ai fait la deuxième moitié de la négociation. Et ça a été pour moi sans doute la plus grande satisfaction personnelle et professionnelle. Voir la France jouer tout son rôle pour sauver un peuple du martyr, permettre que les dirigeants Khmer Rouge qui avaient martyrisé ce pays s'en aillent, non pas à la suite d'une bataille, mais à la suite du vote librement exprimé par les Cambodgiens à travers une élection organisée par les Nations Unies, permettre le départ des troupes vietnamiennes, rendre la liberté et la parole à tous les Cambodgiens, ça a été une très grande satisfaction. Et lorsqu'on a signé en novembre 91 avec le roi Sihanouk, avec tous les dirigeants qui étaient partie prenante, y compris les Khmer Rouges qui ont signé l'accord, ça a été pour moi un très très grand moment et j'étais fier de voir que c'est la France qui avait présidé les travaux, conduit les travaux de bout en bout, avec à ses côtés la Chine, les États-Unis, le Vietnam, la Russie. Ça a été un très grand succès de la diplomatie française. Ça a été aussi un moment fort puisqu'il s'agissait de la renaissance d'un peuple tout entier. Et quel peuple ? Le peuple cambodgien.
Alors, il y a quelque chose qui étonne dans votre carrière parce que vous êtes vraiment l'homme, je dirais pas du secret, mais de l'extrême discrétion, de l'homme du dialogue, l'homme de la prudence tout en étant extrêmement efficace. Or, au moment de la grande crise entre la France et les États-Unis concernant l'Irak, vous avez, vous, Jean-David Lévite, écrit une lettre ouverte qui a secoué vraiment le monde diplomatique et vous n'y alliez pas de main morte, hein, ça c'était pas très diplomatique. Vous dénonciez la campagne de désinformation contre la France, orchestrée, disiez-vous à l'époque, par des responsables gouvernementaux anonymes. Qu'est-ce qui vous a poussé tout à coup à avoir ce culot-là ?
En réalité, ce que nous avons vécu dans la relation franco-américaine a été un moment quasiment sans précédent. Une crise au moment de la guerre en Irak. Pourquoi ? Parce que les Américains étaient encore sous le choc psychologique de l'attaque contre New York, les tours jumelles, le 11 septembre. Et lorsque l'Amérique est entrée en guerre en Irak, le débat interne aux États-Unis s'est arrêté, tous derrière les boys déployés en Irak, et la France s'est retrouvée à la tête de la coalition du non à la guerre. Et le fait est que dans l'administration Bush, des responsables du gouvernement se sont engagés dans une politique de désinformation sur ce qu'était la position française. On nous a accusés, et c'était dans la presse américaine de l'époque tous les jours, d'avoir fourni des armes à Saddam Hussein, ce qui était évidemment complètement faux, pendant la guerre. D'avoir fourni un passeport à Saddam Hussein pour lui permettre de disparaître. Trois semaines plus tard, on le retrouvait au fond de son trou au nord de Bagdad. Mais pendant trois semaines, les médias américains en boucle disaient « La France a aidé Saddam Hussein à sortir du pays », etc. Et donc, pendant des mois, j'avais plaidé une vérité simple. On peut avoir des désaccords sur un dossier majeur, tout en restant des amis et des alliés. Mais entre amis et alliés, on ne se fait pas des campagnes de désinformation. Et comme l'ayant dit au président Bush, aux dirigeants américains, derrière les portes fermées, je voyais que ça continuait. En accord avec le président de l'époque, Jacques Chirac, j'ai envoyé une lettre au président Bush, aux 400 et quelques membres du Congrès, 500 et quelques même, à tous les médias américains, une lettre publique qui a fait en effet la première page des journaux pour dire « On a un désaccord, mais on ne peut pas accepter, entre grandes démocraties, une campagne de désinformation menée à très haut niveau. » Et le fait est que cette campagne a immédiatement cessé. Et ça a été le début de la reconstruction d'une relation apaisée.
Dernière question, évidemment il faut la prendre avec la part de jeu, hein, parce que isoler un fait par rapport à tout le reste, c'est toujours un peu aléatoire, mais quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse, sur le plan des relations internationales, le plus d'espoir ?
C'est du côté de l'Europe qu'il faut regarder. Et j'y reviens parce qu'il y a une sorte d'euro-pessimisme ou euro-frustration, pas seulement en France d'ailleurs, à travers toute l'Europe. Mais je crois qu'on ne redira jamais assez que cette aventure sans précédent dans l'histoire de l'humanité doit être notre fierté. Notre histoire, celle de la France, celle de tous les pays européens, est faite de batailles, de conquêtes, d'affrontements. Aujourd'hui, nous avons appris à vivre ensemble. Nous avons appris l'art du compromis. Nous avons appris que l'intérêt national de chacun est mieux servi quand on sait faire un geste à la rencontre de l'autre au service d'une ambition plus haute. Et cette expérience européenne, qui n'existe nulle part ailleurs, doit aujourd'hui servir de référence pour la construction de l'ordre harmonieux, multipolaire du XXIe siècle. Quand vous êtes les États-Unis, quand vous êtes la Chine, l'art du compromis, vous ne le connaissez pas. Vous défendez vos droits, vous oubliez que vous avez aussi des responsabilités. Nous, ça fait 5 décennies qu'on a appris la vie de famille européenne en partageant notre souveraineté au service d'une ambition commune. Aujourd'hui, regardez, il faut sauver la planète du réchauffement climatique. On n'y arrivera que si chacun fait sa part du chemin. Mais l'art du compromis que nous avons appris dans cette vie européenne, les autres ne l'ont pas. Et c'est ce qui rend la négociation si difficile. Et je crois que le message aujourd'hui de l'Europe, ce n'est pas seulement de savoir que nous avons rendu la guerre impossible sur le sol européen. Mais c'est de devenir une référence, un modèle, que nous sachions faire partager par les autres ce que nous avons si bien su construire sur le sol européen.
Jean-David Lévite, merci. Je rappelle donc, comme l'actualité internationale va très vite, je rappelle que cette émission a été enregistrée le jeudi 21 janvier 2010. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.